Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous retrouvez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy, son écran de veille, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Et dans moins d'une minute, le journal des médias de Charles Decamp et les audiences. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr et sur Europe1.fr. Même si vous ne voulez pas podcaster, il y a également les images et des caméras dans ce studio. Notre info média avec cette question essentielle. Lorsqu'il s'agit d'un fait d'actualité, les choses se sont-elles passées telles que la presse nous l'a raconté? Eh bien, c'est la question que pose depuis 34 ans le fameux baromètre de la Croix. Nous serons avec son directeur Guillaume Goubert et on se réjouit d'avance. Le média jugé le plus crédible reste la radio. Puis nos invités, Karim Rissouli, le présentateur de C'est Politique, incarne depuis lundi C'est ce soir, la nouvelle émission de débat quotidienne lancée par France 5. Premier bilan ce matin et surtout perspective. Enfin, le romancier Nico Takian, présenté comme l'étoile montante du polar français, il publie Solitude après le best-seller Avalanche Hotel. Il est également le scénariste de la série Alex Hugo. Gros carton d'audience sur France 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Je l'ai annoncé en sommaire, c'est votre journal des médias, le sommaire du jour justement.
Une émission s'arrête, une autre renaît, Twitter se diversifie et on terminera avec deux news séries.
Mais évidemment, on commence par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision.
Eh bien c'est France 3 qui a pris la tête avec un nouvel épisode d'Alexandra L. La série avec Julie Depardieu est en forme à 4 400 000 téléspectateurs, soit 18,6% du public. Sur TF1, la série américaine SWAT n'est pas en forme, elle chute lourdement à 3 100 000 téléspectateurs, c'est 800 000 de moins que la semaine dernière quand même, 13,9% de part d'audience, et le leadership de justesse sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 20% de part d'audience. Enfin, M6 est troisième avec Legacy, le nouveau documentaire de Yann Arthus-Bertrand, vous en parliez hier, au compteur 2 400 000 téléspectateurs, soit 11% du public et 19% des femmes de moins de 50 ans.
Culture Média.
Et on commence ce journal avec la dernière de Pièces à conviction ce soir.
Oui, le magazine de France 3 s'arrête après 20 ans passés à l'antenne. C'est Élise Lucet qui l'a lancé en 2000 et c'est Virna Sacchi qui en a récupéré les rênes en 2016. Certaines enquêtes de Pièces à conviction ont marqué l'histoire de la télé, à commencer dès ses débuts par les révélations sur les finances occultes du RPR en 2000, qui impliquaient le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. En 2007, le magazine a levé le voile sur la... En 2017, pardon, le magazine a levé le voile sur la maltraitance dans les EHPAD. Et en 2019, il a fait bouger les choses avec son reportage sur les enfants placés. Pour la dernière émission ce soir, Virna Sacchi proposera d'ailleurs la suite de ce reportage sur les enfants placés. Et ce n'est pas un hasard.
Ça nous tenait vraiment à cœur de finir avec les enfants placés parce qu'effectivement, c'est une cause qu'on a défendue du mieux qu'on a pu, qui nous a vraiment tous animés au sein de l'équipe de Pièces à conviction. C'est pas 500 enfants, c'est pas 1000, c'est pas 3000, c'est quasiment 200 000 enfants placés. Notre première enquête a créé un électrochoc et a créé à ce moment-là énormément d'attentes. Donc on s'est dit, pourquoi pas 2 ans après, faire le point et puis surtout explorer certains volets de la protection de l'enfance que nous n'avions qu'effleuré lors de la première enquête.
L'objectif était aussi de voir ce qui avait changé, bien sûr, en 2 ans. Il y a eu quelques avancées, notamment grâce à des initiatives locales, mais le bilan reste décevant.
Malheureusement, le temps de l'administration et de la politique n'est pas vraiment celui des enfants placés. Des jeunes sont encore placés à l'hôtel, ce qui est quand même assez révoltant. Des décisions de placement mettent des mois à être appliquées. L'absence de structure, de pédopsychiatrie est toujours... criante, et on a toujours aujourd'hui des jeunes placés qui, à 18 ans, se retrouvent mis à la porte du jour au lendemain sans aucun accompagnement.
Virna Sacchi au micro de Louise Bernard. Enfant placé, que fait la République? C'est donc le dernier numéro de Pièces à conviction ce soir à 21h sur France 3.
France Télévisions toujours. France 2 va proposer en mars prochain une nouvelle édition de son grand oral.
Le concours d'éloquence aura droit à un troisième numéro. C'est Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant de France Télévisions, qui l'a annoncé hier à la lettre Média Plus. Mais ce grand oral aura un nouvel animateur. Laurent Ruquier, qui était aux commandes des deux premiers, est trop occupé avec son talk du samedi soir pour en assurer l'animation. La chaîne espère sans doute aussi booster l'audience. Les deux premiers numéros en prime time n'avaient pas réussi à fédérer un large public. 1,5 million de curieux et 8% de part d'audience pour le premier en 2019 et 100 000 téléspectateurs de moins pour l'édition 2020.
Et on attend le nom du nouvel animateur. Le focus programme du jour, Charles, c'est le retour d'une émission imaginée pour aider le monde de la culture en temps de crise.
Oui, 6 à la maison revient ce soir à 22h30 sur France 2. C'est l'émission culturelle animée par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen que la chaîne avait lancée au pied levé en quotidienne lors du premier couvre-feu. C'était mi-octobre. Elle s'était terminée le mois dernier au grand regret de toutes les personnes impliquées, d'après son animatrice interrogée par Louise Bernard.
C'était un rendez-vous qui nous enthousiasmait, qui enthousiasmait les artistes. Et on s'est dit que c'était trop dommage d'en finir là. On avait le cœur serré au mois de décembre. On s'est dit, est-ce que c'est possible de trouver un moment pour que cette émission continue à avoir son espace ? Et France 2, Michel Field et Stéphane Cidbon-Gomez nous ont offert cette possibilité-là. C'est une chance formidable, vraiment. On aurait tout pris en quotidienne, en hebdo, en tout ce qu'on veut. L'idée, c'était de garder ce rendez-vous-là avec les artistes.
Si ça la maison adopte un nouveau rythme hebdomadaire et durera désormais 1h30 contre 1h pour la version quotidienne, les séquences vont donc être rallongées, y compris celle de Bertrand Chamerois. Ah. C'est notamment ce luxe du temps qui différencie l'émission de C'est à vous, le talk show d'accès quotidien animé par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5.
C'est vraiment les artistes ont la parole et on leur offre 1h30 de liberté de discussion. Et c'est en ça qu'elle est particulière et que c'est un plaisir immense de faire cette émission pour Patrick, pour Bertrand et pour moi-même, parce qu'il y a une interaction entre les invités, ils se connaissent, ils parlent entre eux, ils s'intéressent les uns aux autres. Donc il y a vraiment le sentiment d'être en famille avec ces artistes. Ils ont ce sentiment-là quand ils viennent et nos téléspectateurs nous disent que c'est la sensation qu'ils ont.
6 à la maison, c'est à partir de ce soir et tous les mercredis à 22h30 sur France 2. Et l'émission sera également diffusée sur Culture Box, la chaîne éphémère de France Télévisions consacrée à la culture, qui sera lancée dans les jours qui viennent.
Et qui sera même lancée sur la TNT, nous disait hier Stéphane Cidbon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions. Twitter cherche à se diversifier.
Le réseau social vient d'acquérir l'éditeur de newsletter Revue ou Review, basé aux Pays-Bas. Une façon pour Twitter de trouver d'autres sources de revenus que la publicité, dont il reste extrêmement dépendant, et un signe de plus de la popularité croissante du format newsletter.
Et maintenant, deux news consacrées aux séries. La première, c'est la commande d'une saison 9 de Blacklist, série diffusée en France sur TF1 et sur Netflix.
Oui, elle intervient alors que la chaîne américaine NBC vient à peine de lancer la saison 8. Alors, deux facteurs expliquent cette décision très rapide. Blacklist signe des audiences correctes, mais marche particulièrement bien sur les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures. Ces espaces publicitaires sont donc une mine d'or pour la chaîne. Le deuxième facteur, c'est le contrat très lucratif signé avec Netflix qui diffuse la série dans le monde. Le studio Universal, propriétaire de NBC et coproducteur de la série, a donc tout intérêt à ce qu'elle vive longtemps.
Et puis deuxième info-série, un roman culte Gatsby le Magnifique qui va être adapté pour la télévision.
Le créateur de la série Vikings prépare une mini-série adaptée du roman culte donc de Francis Scott Fitzgerald. Vous m'enlevez les mots de la
Exactement.
Bouche. Il souhaite donner une lecture moderne du roman à travers un prisme très actuel, celui d'une Amérique très divisée. Le projet sera prochainement proposé aux chaînes et aux services de streaming. Il intervient 8 ans après la dernière adaptation en date du roman, le film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio.
Et on termine ce journal avec une précision, Charles. Lundi, vous nous parliez d'une nouvelle offre éditoriale du magazine américain Rolling Stone.
Oui, contre la somme de 2 000 $, 1 600 euros environ, il propose à des professionnels des médias, de l'industrie agroalimentaire ou encore de la mode et de l'hôtellerie, de rejoindre un club très fermé, un club qu'il a baptisé Conseil Culturel et qui permet d'écrire pour son site internet. Alors, petite précision importante, cette initiative ne concerne que le site américain rollingstone.com et donc pas la version française de Rolling Stone, ni son édition papier, ni son édition en ligne. Pour éviter toute confusion avec les articles rédigés par les journalistes, les contenus publiés sur le site américain sont accompagnés d'un bandeau qui explique brièvement le concept de ce conseil culturel.
Merci beaucoup Charles Decan, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Dans un instant, notre info média du jour, l'un des sondages les plus attendus des rédactions, c'est le baromètre annuel de la confiance dans les médias. Et figurez-vous qu'elle remonte. Nous en parlons avec Guillaume Goubert, le directeur du journal La Croix, car c'est ce qu'on appelle ici le baromètre La Croix. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Bondel.
C'est l'un des sondages les plus attendus dans les salles de rédaction, le baromètre La Croix, baromètre annuel de la confiance dans les médias. Il est réalisé par l'Institut Kantar pour le journal chrétien qu'il publie ce matin. Et ses résultats cette année sont à la fois étonnants et rassurants, du moins pour les journalistes. Des résultats qui soulignent également quelques critiques indispensables et stimulantes. Elles nourrissent la réflexion continue que nous avons sur le traitement des faits d'actualité. Bonjour Guillaume Goubert.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de La Croix et c'est avec vous que nous allons détailler et analyser les résultats de ce baromètre. La 34e édition, vous lui consacrez un dossier de 5 pages et votre édito. Édito que vous démarrez ainsi par ces mots. Il faut l'avouer, écrivez-vous. Nous redoutions le pire au moment de prendre connaissance des résultats. Pourquoi redoutiez-vous le pire ?
Bien, d'abord parce que la tendance globalement n'est pas bonne depuis un certain nombre d'années, avec même une aggravation sensible au moment de la crise des gilets jaunes, une dégradation de la confiance entre les Français et notre profession. Et donc je me disais qu'après une année aussi particulière, avec une telle prédominance du dossier Covid sur toutes les... Kantar a calculé que ce sujet a occupé la une de l'actu 306 jours sur 365 en 2020. Donc moi je pensais qu'il allait y avoir... Bon, on sait aussi qu'il y a eu un certain nombre de choses... un peu approximative sur les plateaux, des experts qui n'étaient pas très qualifiés, qui péroraient, etc.
Pardon de sourire.
Et donc, de ce fait, je pensais que les Français allaient dire « ras-le-bol, décidément, ça ne va pas, votre façon de bosser, on n'en peut plus ». Et or, ça n'est pas vraiment le cas. Les indicateurs sont tous orientés positivement. Je ne dirais pas que c'est un bond de la confiance, mais c'est vraiment un maintien et amélioration sur tous les critères. Donc, c'est plutôt une bonne surprise.
Un frémissement, titrez-vous.
Oui,
ce
un
matin,
frémissement.
Un frémissement.
Ça,
c'est pas un bond, c'est un frémissement.
Voilà.
On va entrer dans le détail dans quelques instants. Je sais que c'est la question peut-être la plus difficile. Comment expliquez-vous ce frémissement, cette confiance accrue dans les médias cette année, après des années et des années de descente relative ?
Eh bien, parce que cette année, nous avons tous, journalistes et consommateurs d'informations, étaient confrontés à un événement complètement inédit, complètement inattendu, qui nous a confrontés à des situations sans précédent. On ne savait pas comment faire pour faire face à ça. Et du coup, on a besoin de son journal, de sa radio, de sa télévision, etc., pour savoir ce qui se passe, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, pour recevoir des informations d'ordre pratique, les gestes de distanciation, l'usage des masques, les règles de confinement, les mesures de soutien aux entreprises, etc. Pour tout ça, les médias étaient très utiles aux consommateurs. Donc, finalement, on est revenu à la fonction primordiale de notre métier, qui est d'apporter des informations. Et ces informations étaient vraiment précieuses pour nos auditeurs et pour nos lecteurs.
Alors c'est un mot que je déteste, qu'il est galvaudé, décrypté, mais là il faut vraiment décrypter parce que c'est très très complexe. Les Français font davantage confiance en la presse et en même temps, ils sont une majorité à reprocher aux médias justement d'avoir donné trop de place à des gens qui ne sont pas spécialistes du sujet ou à des gens qui sont parfois les mêmes, qui expriment un point de vue extrême.
Tout à fait, et je pense que c'est une critique, je disais à l'instant, je pense que c'est une critique qui est largement fondée. Enfin, ils ont raison de nous interpeller là-dessus. On sait qu'il y a on me racontait le cas d'un épidémiologue qui intervenait sur un plateau présenté comme tel. Et en fait, quand on a regardé de plus près son CV, on s'est rendu compte que sa spécialité, c'était l'épidémiologie du sport. Ce qui, évidemment, n'avait pas grand-chose à voir avec le coronavirus. Donc, il y a eu des erreurs de fait comme ça, où les journalistes, pour constituer des plateaux, etc., ont parfois été un petit peu vite parce que les besoins étaient extrêmes. On fait un métier qui présente des risques, il faut bien le reconnaître. Notre rôle, c'est d'apporter le plus vite possible, de faire le lien le plus vite possible entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ça nous amène à prendre des risques. Et parfois, on fait des erreurs. Ça, c'était typiquement une erreur. Que ensuite les consommateurs nous le reprochent, ça me paraît complètement normal et c'est quelque chose qu'il faut entendre. Mais globalement, je crois de mémoire, 66% les personnes interrogées disent qu'elles ont été... Elles sont satisfaites de la manière dont elles ont été informées. Elles critiquent certains points, mais pas d'autres.
Ouais. Et il y a un mot qui est apparu justement pour faire écho à ce que vous venez de dire, qui est l'ultra-crépidarianisme. C'était la propension qu'ont certains experts à parler d'un sujet qui n'est absolument pas de leur domaine d'expertise. La crise sanitaire, vous l'avez dit, c'est l'événement dont on a le plus parlé. Les Français s'estiment mieux informés qu'auparavant, mais sur d'autres sujets, ils s'estiment mal informés, notamment par exemple les débats sur la chloroquine. Ça s'explique parce qu'il y a deux points de vue ou ça s'explique parce que la presse a mal fait son travail selon vous ?
Ce qui est frappant quand on regarde ça, c'est qu'on se rend compte que les Français nous donnent un satisfecit sur des choses simples, comme l'application des gestes barrières, les règles touchant confinement, l'évolution des chiffres de la pandémie, les mesures prises par le gouvernement. Et là où ça devient négatif, c'est quand il s'agit des recherches sur les vaccins, des conséquences psychologiques de l'épidémie, de l'origine du virus, ou les débats sur la chloroquine. Certes, des sujets sur lesquels il y a de l'incertitude, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Alors, sur le cas précis de la chloroquine...
Pardon de vous interrompre sur ces trois sujets. Là, est-ce que ce n'est pas également des sujets sur lesquels il y a du complotisme ?
Oui, bien sûr. Comme il y a de l'incertitude, ça nourrit effectivement des réflexes, des réactions complotistes. Alors, le cas de la chloroquine est un petit peu particulier parce que c'est un des... Il n'y en a pas eu tant que ça, finalement, des sujets de l'épidémie où il y a eu de véritables... querelles politiques, querelles de personnes, des affrontements très violents.
Et des querelles scientifiques. Parce que le professeur Raoult n'est pas seulement... Il est vu par certains comme un gourou, mais quand même son médicament, enfin celui qui recommande la chloroquine, a été utilisé par le président des États-Unis, première Tout puissance mondiale. Donc c'est pas non plus un illuminé dans son coin.
Donc c'est un sujet sur lequel à la fois il y a eu beaucoup d'espoir, parce qu'on a pensé très très tôt, on s'en souvient que c'était peut-être un médicament qui allait permettre de faire face à tout ça. Et c'est parti après excusez-moi l'expression, mais c'est parti en eau de boudin dans toutes sortes de querelles, et je comprends qu'à l'arrivée, le consommateur, le lecteur et auditeur se sentent paumés et disent je ne me sens pas bien informé sur ce sujet-là. Mais pouvions-nous bien informer sur ce sujet-là dès lors qu'il y avait de telles incertitudes et de tels affrontements ?
La crise sanitaire, c'est l'événement dont on a le plus parlé l'an dernier, vous l'avez dit, il a été à la une 306 jours sur 365 selon votre étude. On a même trop parlé selon les trois quarts des Français. À l'inverse, il y a des événements qu'ils auraient aimé voir davantage traités dans les médias, la conférence citoyenne pour le climat, les révélations d'abus sexuels dans le monde sportif et le mouvement pour la démocratie en Biélorussie. Est-ce que les médias doivent prendre le risque de parler de tels sujets qui, a priori, intéressent moins l'opinion ? Et je m'adresse aussi aux patrons de journal que vous êtes et qui, malheureusement, font peut-être moins vendre de papier.
Écoutez, moi je pense qu'effectivement il faut savoir prendre ce risque. Je pense que notamment les clients des médias anciens, institués si je puis dire, ce qui vaut pour une antenne comme la vôtre ou un journal comme le mien, je pense qu'on s'adresse à un public qui a un besoin d'information avec un scope assez large, et que donc il faut pas avoir peur de leur parler de sujets qui sont pas a priori au premier plan de leurs préoccupations. Le tout, c'est de trouver le moyen de les intéresser à ces sujets. Je pense que il y a aussi un truc dont il faut parler, ce sont les événements dont on a convenablement parlé aux yeux de notre échantillon, ni trop ni trop peu, et notamment ça touche les deux grands événements terroristes récents. Et là, je trouve que c'est intéressant aussi de voir, par exemple sur l'assassinat de Samuel Paty, qui est un événement qui a donné lieu énormément, enfin je veux dire, c'était un des très très grands événements de l'année. On aurait pu s'attendre à ce que, et surtout compte tenu de l'horreur de cet événement, que beaucoup de personnes nous disent « vous nous en avez trop parlé ». Et non, ils n'ont pas ressenti ça, et je veux dire, c'est intéressant d'analyser un peu l'offre et la demande de ce point de vue-là. Parfois, nous sommes au-delà de la demande, mais parfois, nous sommes, même si nous en faisons beaucoup, nous sommes au rendez-vous de l'attente de nos clients.
Et d'un mot, le second événement terroriste, c'était l'attentat à la Basilique à Nice. C'était bien celui-ci. Vous restez avec nous, Guillaume Goubert, le directeur du journal La Croix. On continue à détailler et à plonger dans les arcanes, les méandres de ce baromètre. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel. 9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Guillaume Goubert, le directeur du journal La Croix, qui publie ce matin son baromètre très attendu. Le baromètre La Croix s'est fait Kantar de la confiance envers les médias. En gros, la question qui est posée, c'est quand vous entendez quelque chose à la radio, à la télévision, vous lisez dans le journal, est-ce que les événements se sont passés tel qu'on vous l'a raconté, et c'est cet indicateur que vous suivez, que vous menez depuis 34 ans. Pour bien comprendre les résultats, il faut aussi savoir comment il a été réalisé ce baromètre. C'était il y a près de 3 semaines, entre le 7 et 11 janvier, ce qu'on appelle la méthodologie, selon la méthode des quotas, échantillons représentatifs de 1000 personnes. Jusque-là, j'ai rien dit, rien de surprenant. Ce qu'il est davantage, c'est la précision suivante. Les entretiens se sont déroulés en face à face, au domicile des personnes, plus de 1000 personnes, qu'est-ce que ça change par rapport aux sondages réalisés la plupart du temps par téléphone ou en ligne, à part que ça coûte très cher d'abord?
Ce que ça change, c'est que d'abord c'est la technique d'origine, c'est-à-dire qu'avant Internet et même avant le développement de
Pardon, c'était au téléphone autrefois les sondages.
L'idéal c'était quand même de le faire en face à face parce que on a un meilleur contact avec les personnes interrogées, les personnes qui interrogent peuvent mieux formuler éventuellement. Elles peuvent apporter une toute petite précision par rapport, etc. Donc, ça permet quand même une meilleure qualité de réponse que par Internet où tout se fait par écrit. Donc, de ce point de vue-là, c'est la technique traditionnelle. Je dirais que c'est un peu un sondage à l'ancienne, au meilleur sens du terme.
Exactement. On va passer en revue les principaux indicateurs. Le premier, c'est l'intérêt porté à l'actualité. Il est en nette hausse, plus 8 points par rapport à l'an dernier. On a compris les raisons de la hausse, mais pas forcément celle de son ampleur. 8 points, c'est beaucoup. Vous avez une explication ?
Oui, c'est le caractère inédit des événements que nous vivons depuis un an, où nous nous sommes tous trouvés confrontés à des choses qu'on n'avait jamais vécues avant et qui ont complètement bouleversé nos vies. Donc, et en plus, il y a eu les périodes de confinement où on a été entre guillemets enfermés chez nous et où à ce moment-là, on allume sa radio, on allume sa télé, on regarde sur Internet parce que on veut comprendre ce qui se passe parce qu'on est chez soi et on a moins d'interaction avec d'autres personnes qui vous racontent des choses, quoi. Donc l'intérêt pour l'information cette année, c'est normal qu'il ait fait un bond.
Moins réjouissant, l'intérêt pour l'actualité qui n'a pas augmenté chez les jeunes. Les 18-24 ans, 51% d'entre eux s'intéressent à l'information. C'est une courte majorité, 51%. Mais chez les Français en général, c'est 67%. Qu'est-ce que cela dit ?
Cela dit effectivement que l'intérêt pour l'information au sens traditionnel du terme est nettement plus faible chez les jeunes, et de même que leurs moyens d'information sont très différents, puisque les jeunes, pour les moins de 35 ans, ce qui est déjà pas tout à fait jeune, Internet est de très loin la première source d'information, et le premier support d'information, c'est le smartphone. Mmh. 66% s'informent sur Internet et 50% sur leur smartphone. Donc c'est des comportements. Bon, il y a tout le développement de l'information via les réseaux sociaux, etc. Ce sont des modes de consommation d'informations qui sont complètement différents, mais on le constate autour de nous, dans nos vies, avec nos enfants. On a beau être journaliste, on voit bien que nos enfants... Ouais. Et faire un journal papier, je vois bien que mes enfants, ils s'informent sur leur téléphone et ils lisent pas des journaux papier.
Ils lisent pas La Croix, vos enfants ?
Si, mais sur leur téléphone.
Internet, puisque vous en parlez, reste le média le moins crédible. 28% des Français lui font confiance. C'est quand même un chiffre en hausse.
C'est quand même en hausse. Et je pense que c'est à relier à ce que je viens d'observer. C'est que l'usage est de plus en plus grand. Ce qu'on peut dire aussi sur Internet, c'est que beaucoup d'internautes vont sur les sites des médias traditionnels. C'est-à-dire qu'ils vont sur le site du Monde, ils vont sur le site d'Europe, ils vont sur le site de La Croix. Quand ils veulent de l'information sérieuse, ils se tournent vers les grandes marques de presse, les grandes marques de communication.
Dans l'actualité de la presse, il y a cet accord cadre passé avec Google sur les droits voisins, autrement dit sur la rémunération par Google des informations publiées par les journaux et reprises ensuite par le géant américain. Il s'agit d'un accord cadre avec l'APIG, c'est l'Alliance de la presse d'information générale qui regroupe 300 titres, des quotidiens notamment dont La Croix. Est-ce que le journal a trouvé un accord avec Google ? Est-ce que vous discutez encore ?
Nous discutons encore, mais c'est vraiment maintenant sur des modalités secondaires. Mais maintenant, le cadre est fixé, le cadre est moins mauvais que ce qu'on a pu craindre à un moment, c'est-à-dire que malgré tout, Google a reconnu l'existence d'un droit voisin, c'est-à-dire de rémunérer les informations que nous publions, ouais, et qu'ils reprennent sur leur site.
Pardonnez-moi, il l'a reconnu parce que c'était dans la loi, hein.
Oui, mais ils ont quand même cherché par différents moyens à contourner cette obligation. Et là, je pense que toutes les polémiques et un certain discrédit qui est actuellement autour des GAFAM, qu'on a notamment vu à l'occasion des élections américaines, autour de ces géants du numérique, font que Google n'a peut-être plus tout à fait la même, le même impérium, ou voire la même arrogance qu'il pouvait avoir il y a encore quelques mois, parce que ils savent qu'ils ont un gros problème d'image à améliorer et que ça passe notamment par de meilleures relations avec les médias.
D'un mot, puisque vous êtes au cœur du réacteur, il y a eu cet accord cadre signé par un ensemble, mais ensuite chaque rédaction, chaque journal discute de gré à gré avec Google.
Oui, il y a une part qui est propre à chaque journal, le nombre d'articles que Google va mettre en valeur sur un nouvel outil qui s'appelle Showcase, qui est une sorte de vitrine que Google propose aux médias. Il faut chaque média négocie le nombre d'articles auxquels il aura droit en fonction de sa diffusion diffusion, de son audience, etc.
Avant de changer de sujet, ils sont durs en affaires ?
Très durs.
On a parlé des effets de la crise sanitaire sur la confiance dans les médias, mais pas des effets sur les résultats de votre journal, La Croix. Comment se porte votre journal ?
J'ai coutume de dire aussi bien que possible, c'est-à-dire que les temps sont difficiles, ouais. Vous le savez bien, pour les médias traditionnels, avec notamment la captation des recettes publicitaires par les GAFAM. Il faut savoir que Facebook et Google, à eux deux, accaparent 25% du total mondial de la publicité. Deux entreprises qui ont un quart du marché mondial de la pub, c'est incroyable. Donc, dans ce cadre-là, nous nous portons relativement bien, en s'appuyant notamment sur une incroyable fidélité de nos lecteurs et une relation avec nos lecteurs qui est très forte et qui s'est encore accentuée cette année du fait de la crise sanitaire.
Et en même temps, et on s'en réjouit, La Croix, c'est pas seulement un quotidien, c'est également un groupe.
La Croix appartient à un groupe qui s'appelle Bayard Presse, qui vit une très bonne année grâce notamment à son secteur de l'édition et de la presse pour les jeunes, avec des marques comme Pomme d'Api, J'aime lire, Astrapi, Okapi, une héroïne de BD qui a un succès incroyable qui s'appelle Mortel Adèle, et donc le groupe fait une bonne année parce que cette année, les parents étaient très soucieux de ce que lisaient leurs enfants.
Merci beaucoup les parents et merci à Guillaume Goubert, directeur journal La Croix. Évidemment, beaucoup de choses n'ont pas été dites dans cette émission. Il y a 5 pages pour ce baromètre à retrouver maintenant en kiosque, évidemment, sur Internet. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe.
En direct sur Europe 1. Dans un instant, Karim Rissouli, le journaliste qui va nous en dire plus sur la nouvelle émission de débat que lance France 5. Elle s'appelle C'est ce soir. C'est ce soir, mais c'était également lundi et mardi. On en parle juste après ça.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, présentateur de C'est Politique, c'est chaque dimanche à 18h30 sur France 5. Mais votre actualité, c'est plus qu'une actualité puisque c'est quasiment un changement de vie. Vous présentez C'est ce soir, la nouvelle émission de débat que vient de lancer France 5. C'est du lundi au jeudi à 22h30. Bonne annonce.
Bienvenue dans votre nouvel espace de débat. Éclairez l'actualité autrement en prenant le temps d'échanger des idées, de la nuance, en prenant le temps de s'écouter. C'est le pari de notre nouvelle émission. Avec nous tous les soirs, des intellectuels, des artistes, des personnalités qui font et qui pensent l'actualité, mais aussi cette équipe magnifique, les journalistes Camille Diao et Maxime Darquier, le patron du Monde des Livres, Jean Birnbaum, et Laure Adler, de retour à la télévision.
C'est ce soir le débat, du lundi au jeudi à 22h30 sur France 5.
Alors on a vu cette bande-annonce la semaine dernière, l'émission a démarré avant-hier, lundi. Est-il possible de tirer un premier bilan ou est-ce qu'il est trop tôt ?
Alors je pense qu'il est encore un peu tôt et nous-mêmes on se cherche un peu. Après je pense qu'on a réussi à envoyer les signaux qu'on voulait envoyer jusqu'à pour lancer l'émission. C'est-à-dire essayer de prendre le temps d'avoir des invités un peu différents. Michel Perrault, historienne lundi, Bruno Latour, philosophe et sociologue hier, qui sont un peu des sommités du monde intellectuel et qu'on reçoit un peu comme des stars. Pour le coup, et ça, on assume et on débat après à partir de leur pensée.
Les audiences, vous avez les chiffres ? Vous les avez en tête ?
Oui, bien sûr. On fait 2,5% de part de marché lundi et hier soir et on fait autour de 350 000 téléspectateurs, ce qui est pour le coup mieux que ce que j'imaginais, même si j'ai entendu Stéphane Sidbon-Gomez chez vous hier dire que l'audience, on s'en foutait un peu.
On dit toujours ça quand on travaille dans le service public.
Ouais, et quand ça marche, on dit pas qu'on s'en fout.
Mais évidemment, et on fait un tweet pour dire que ça a cartonné.
Non, pour le coup, c'est vrai qu'on a le temps de s'installer, mais moi, j'aimerais quand même aller vite.
Voilà, et je n'oublie jamais que l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine, c'est à vous.
Ouais.
Toutes ces émissions commencent par un C, on les confond toutes. Ils ont démarré, ils avaient 80 000 téléspectateurs.
Ouais, moi aussi. donc 350, je m'estime heureux.
Voilà. Il faut une émission, ça met du temps à s'installer. C'est ce soir, c'est un débat quotidien. Le titre et le générique rappellent Ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Daddéhi qui était une référence sur France 3 puis en hebdo sur la 2. Émission retirée de l'antenne en 2016. Quelle similitude et surtout quelle différence ?
La similitude, pour le coup, c'est la présence des intellectuels. Pour le coup, c'est leur place de venir chez nous, comme c'était leur place de venir chez Frédéric Taddeï, que moi je regardais vraiment à l'époque. Il a aussi déniché pas mal de jeunes talents, des penseurs qu'on connaissait pas. Ça, on va essayer de le faire nous aussi, parce qu'il y a l'invité principal qui est souvent une sommité, mais il y a aussi d'autres débatteurs qui vont venir. Donc ça, on se place dans cette filiation-là. Après, la différence, c'est que chez Taddeï, il y avait 6, 7, 8 invités. Alors aujourd'hui, en temps de Covid, c'est pas simple. Et puis surtout, il n'y avait pas de bande de chroniqueurs. On est plus un magazine, là où Frédéric Taddeï, c'était un débat vraiment pur jus. Donc nous, on se place davantage dans une filiation qui est entre Ce Soir ou Jamais et C'est Politique, pour le coup, qu'on fait le dimanche.
Oui, il y a même des magnétos, des éclairages journalistiques, comme La Preuve par 3.
Oui, La Preuve par 3, c'est essayer de revenir sur un point clé du débat à partir de 3 photos. On l'a fait autour de la question de la prescription des crimes lundi soir. Donc on est parti de d'où vient l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Et puis on est arrivé à aujourd'hui à ceux qui demandent justement l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels. Ce soir, on va parler de l'Algérie, par exemple, de la mémoire. On va faire une preuve par 3 sur le drapeau. D'où vient le drapeau algérien? Voilà. Donc, voilà, apprendre des choses aussi en regardant la télé. Donc il y a ça, et puis il y a d'autres magnétos. Ouais.
Quelle définition, Karim Rissouli, vous donnez au débat d'idées? Enfin, quelle différence avec un débat tout court? C'est quoi un débat d'idées?
Bon, je pense que tous les débats sont des débats d'idées, pour le coup. Mais peut-être que la différence entre ce que
viande ou poisson, c'est pas un débat d'idées.
C'est pas un débat d'idées, c'est vrai. C'est un débat. Mais par contre,
je pensais que vous allez me dire, nous ne sommes pas dans l'invective entre Pierre, Paul et Jacques.
Oui, ça c'est vrai. En tout cas, dans tous les débats, il y a quand même souvent une part d'idéologie, en tout cas. Après, la différence qu'on va essayer d'installer, c'est justement de montrer qu'on peut ne pas mettre de gants de boxe, ne pas se cracher dessus, ne pas s'invectiver, et réussir à échanger intelligemment. Pour le coup, un débat, c'est un échange. Quand on dit débat d'idées, je préférais échange d'idées, d'ailleurs, que le terme de débat, qui est un peu galvaudé. Pour le coup, je trouve que c'est un très beau mot. Il y a un physicien qui s'appelle Étienne Klein, philosophe des sciences, qui dit de débattre, c'est argumenter pour ne pas se battre. Et bien, pour le coup, ça peut être le mantra de l'émission, je serais très heureux.
Je reviens à la filiation Ce Soir ou Jamais. Dans l'émission de Tadi, il y avait souvent des invectives. On se souvient de Finkielkraut qui criait taisez-vous, taisez-vous. C'était chez Tadi, pas de ça chez vous.
Non, pas de ça chez nous. Alors après, il faut qu'il y ait de la passion aussi. Donc je veux pas dire qu'il y aura jamais de ça chez nous, parce que je pense que le taisez-vous de Finkielkraut, même Tadi l'avait pas forcément imaginé avant l'émission. Ouais. Donc pour l'instant, on met en place cette émission, et puis il faut qu'il y ait de la passion. Mais par exemple, lundi, on a reçu Vanessa Springora. Je n'avais pas envie de mettre face à Vanessa Springora quelqu'un qui allait défendre Gabriel Matzneff. C'est pas mon propos, et c'est pas ce que j'ai envie de faire à la télévision.
Et justement, on parlait de cette émission, c'était lundi soir, au lendemain de la première, Télérama hier, donc mardi, écrivait « Ni révolution de format, ni numéro de claquette, c'est ce soir à livrer une partition sage et sans fausse note, aussi riche que lisse, nous laissant presque sur notre faim. » Et à propos du débat, François Rousseau regrette des divergences courtoisement, enfin qu'il y ait là des divergences courtoisement argumentées. Que répondez-vous? Vous allez corriger le tir ou au contraire, c'est justement ce que vous recherchez?
Non, on ne va pas corriger le tir. Je trouve que d'abord, le papier de François Rousseau était très agréable à lire pour nous. Le côté aussi riche que lisse n'était pas très agréable à lire. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit lisse. Je pense que quand on reçoit Michel Perrault, qui est une femme qui a 92 ans, qui a inventé l'histoire des femmes, qui parle de l'histoire des oubliés, qui veut rendre visibles les invisibles. Oui. Bon, mon propos n'est pas de lui rentrer dedans. Et puis je pense qu'on est tellement habitué à ce qu'un débat d'idées, du coup, pour le coup, aujourd'hui, ce soit se hurler dessus, ne pas s'écouter, ne pas s'entendre, que quand on regarde notre émission, on se dit c'est bienveillant. Ouais. Ouais, mais bienveillant, ça ne veut pas dire être naïf.
En tout cas, sur un point, vous avez écouté François Rousseau, puisqu'il regrettait qu'il n'y ait pas de public, et depuis hier soir, il y a un mini-public. Il y a trois personnes masquées.
Il y en avait 6 hier soir.
J'en ai vu 3 à l'antenne.
Mais on est au maximum. On a prévu un plateau en temps de Covid, pour le coup. Donc on n'a pas prévu un énorme plateau sur lequel on peut avoir du public. Mais oui, c'est toujours mieux d'être écouté par des gens et de les voir.
Beaucoup d'autres questions pour Karim Rissouli, sur le fond, sur la forme. C'est ce soir, c'est maintenant, dans ce studio. A tout de suite, Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Karim Rissouli, qui présente désormais depuis lundi, l'émission s'appelle C'est ce soir. Il y en a une ce soir, il y en a une demain. C'est du lundi au jeudi. C'est à 22h30 sur France 5. Autre différence, puisque c'était la filiation, avec Ce Soir ou Jamais, l'émission présentée autrefois par Frédéric Tadei, vous ne serez pas en direct, ou alors rarement. C'est pour des raisons d'économie ou pour éviter les dérapages en direct, ou les deux?
Ah non, moi j'adore le direct. Je suis en direct tous les dimanches soirs depuis 4 ans et demi. Non, au contraire, moi je plaidais plutôt pour être en direct. Il y a des questions financières, évidemment. On le sera, on peut l'être en tout cas, si besoin.
S'il se passe quelque chose. Par exemple, si on savait que le président Macron annonce quelque chose sur le confinement, soyez pas hors sol, ou est-ce que je me trompe en disant ça?
Non, il va falloir qu'on juge, qu'on jauge justement les infos et les actus qui nous font passer en direct. Je pense que par exemple, l'assassinat de Samuel Paty, évidemment, on passe en direct. une annonce d'Emmanuel Macron, je suis pas sûr, parce que la vocation de l'émission, c'est pas de faire la même chose qu'une émission comme C'est à vous, par exemple, qui est une émission de hard news, en tout cas qui traite de l'actu du jour, le témoin du jour, il doit être dans C'est à vous. Et nous, on peut être à J+1, J+2, J+3. Je vous disais, on va faire le débat sur la mémoire autour du rapport Stora ce soir. Il a été remis il y a 7 jours pile, le rapport Stora, mais il a été un peu écrasé par le reste de l'actu, par l'investiture de Biden. Donc nous, on prend le luxe d'y revenir ce soir. Donc on passera en direct quand vraiment ce sera nécessaire, et puis aussi parce que c'est bien d'être en direct parfois pour une émission.
Qui seront vos invités dans ces politiques sur France 5? À de très très rares exceptions, vous n'invitez jamais de homme politique. C'est un peu comme si Automoto ne voulait pas de pilote. Cette fois, vous allez vous autoriser cette possibilité
d'avoir des hommes et des femmes politiques?
Oui.
Alors jamais en invité fil rouge, je pense que c'est pas le propos de l'émission, c'est vraiment une émission où l'invité fil rouge est un intellectuel, un romancier, un artiste, un ou une, hein, évidemment. Après, sur un débat, évidemment qu'on peut avoir des politiques, mais aussi dans ces politiques d'ailleurs, hein, sur un débat très précis, un point clé sur les violences policières par exemple dans ces politiques, on avait une députée En Marche qui était là parce qu'elle défendait une proposition ou un projet de loi du gouvernement par exemple.
Quelle différence avec 28 minutes où il y a un animateur, en l'occurrence une animatrice, des chroniqueurs et un invité fil rouge, plutôt un intellectuel ou un artiste?
Je pense qu'on est dans le même type d'émission. Ceux qui aiment 28 minutes devraient aimer C'est ce soir. Après, je pense que je ne suis pas Elisabeth Quint, que notre bande n'est pas la même bande que celle de 28 minutes.
Oui, mais minutes. À part l'heure.
Bah non, mais je pense que quand même, une émission média sur Europe 1 faite par Philippe Vandel ou par un autre, c'est pas la même émission.
Ouais. Alors au passage, justement parce qu'on parle des invités, j'ai regardé la liste des 4 premiers invités à votre première semaine, du lundi au jeudi. Donc hier vous receviez l'historienne Michèle Perrot, ex-adhérente du Parti communiste, dont elle dit rester compagnonne de route, j'aime bien ce mot. Ce soir c'est le philosophe Bruno Latour qui confesse lui-même.
C'était hier.
Hier, pardonnez-moi, oui parce que j'ai écrit ce texte hier, donc c'est pour ça que j'ai écrit ce soir, pardonnez-moi. Il dit lui-même, il y a un moment où j'aurais voulu être le Marx de l'écologie, ce soir ce sera l'écrivain Yvan Jablonka, anti-sarkozyste déclaré, même s'il n'a jamais affiché son vote, et enfin jeudi, l'écrivaine Karine Thuil qui avait appelé à voter Emmanuel Macron contre Karine Le Pen. Est-ce qu'il faut avoir forcément une sensibilité de gauche pour être invité dans votre émission? Est-ce que vous allez également inviter des gens de droite?
Oui, je vous le promets et j'en ai extrêmement envie. Il se trouve que si on invite Michèle Perrot, c'est pas pour son passé ou pas.
J'ai bien compris.
Communiste. Non mais c'est hyper important, c'est-à-dire que pour
Mais c'est l'effet de masse qui fait sens.
Non, je comprends.
Si
quelqu'un qui venait du RPR à l'époque ou d'un parti gaulliste avait fait l'histoire des femmes comme Michèle Perrot l'a fait, elle serait là. Si Bruno Latour, c'est un peu l'intellectuel star en ce moment. Pour le coup, on n'a pas. Je pense que tous ceux qui ont regardé l'émission hier soir ne savent pas ce que vote Bruno Latour. Ils savent qu'il est potentiellement décroissant.
Moi non plus, j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Non, donc et je ne sais pas ce qu'il vote. Alors finalement, Karine Thuil vient ce soir parce que Yvan Jablonka a un problème familial. Mais on va parler davantage avec elle justement de.
Mais il y aura des gens de droite dans votre émission. Mais
évidemment, et puis dans ces politiques aussi, on avait un libéral convaincu qui s'appelle Gaspard Koenig dans ces politiques la semaine dernière. Et on a fait une émission formidable.
Autre question qui se pose beaucoup en ce moment, que faites-vous des extrêmes? Est-il possible pour vous d'inviter des gens qui n'ont pas le même socle de valeurs, l'extrême droite, l'extrême gauche, sans aller jusqu'au salafiste?
Ça, pour le coup, c'est un débat, je pense, qui est intranchable en 30 secondes. Il y avait un débat à l'époque de Tadi, justement, puisqu'on parle de l'affiliation. Il y avait un papier qui s'appelait « Faut-il brûler Tadi ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez
de ça. Je me souviens très bien. C'était les Inrocs.
Et il y avait un gros débat sur est-ce que Tadi va trop loin, est-ce qu'il franchit la ligne rouge. Pour le coup, l'objectif de l'émission, je prends mon temps parce que c'est important. L'objectif de l'émission, c'est de ne pas avoir d'invective, qu'il n'y ait pas de bouc émissaire. Voilà, moi, dans un débat, par exemple, si on prend un débat identitaire, ça ne m'intéresse pas d'avoir quelqu'un sur mon plateau qui va dire le fautif c'est le musulman, ou le fautif c'est l'arabe, ou le fautif c'est un tel. Je pense qu'on ne débat pas à partir de ça. Donc pour le coup, j'aurais tendance à dire que le socle de valeurs c'est extrêmement important, mais le socle de valeurs sont les valeurs démocratiques pour moi.
Alors, on l'a entendu dans la bande-annonce, vous n'êtes pas seul dans cette émission, Karim Rissouli, il y a une équipe que vous présentez, par exemple Jean Birnbaum, je vous cite, un homme capable de citer dans la même phrase Michel Foucault et le rappeur Booba.
Et c'est vrai.
Et c'est pour ça qu'on l'aime. Jean Birnbaum, dites-vous, patron du Monde des Livres, le supplément littéraire du Monde, passionné de philosophie, c'est un peu l'intello de la bande. Ensuite, vous présentez ainsi Laure Adler. Ai-je besoin, dites-vous, de présenter Laure Adler? On ne présente pas Laure Adler, on lui dit bonsoir. Merci d'avoir accepté de faire partie de cette bande. Vous, Laure Adler, vous adressez à elle, qui a incarné si longtemps l'intelligence à la télévision.
Et puis il y a aussi Camille Diao, et voici comment vous l'avez présentée lundi aux téléspectateurs.
Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Vous serez à mes côtés tous les soirs pour nous raconter les grands sujets de société qui traversent notre époque, pour mettre en lumière aussi les jeunes penseuses, jeunes penseurs, les jeunes artistes. Un bouillonnement, on l'espère, d'idées et de culture, et je suis ravi que vous soyez dans l'aventure avec moi.
Alors contrairement aux autres, vous ne donnez pas son CV, vous ne mettez pas ses titres en avant, aucun compliment sur son intelligence, et du coup le téléspectateur ne sait pas pourquoi elle est là, ce qui fait que vous l'avez choisie. Pourquoi ce choix de la présenter ainsi ?
Parce que Camille Diao, elle a à peine 30 ans. Pour le coup, c'est pas lui faire offense que de considérer que Laure Adler est un peu un monument de la télé. Et que du coup, c'est pour ça que je l'ai mise en avant.
Non, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas de référence à l'intelligence, pour tout vous dire. Voilà ce qui m'a frappé.
Alors pour le coup, j'en suis vraiment désolé parce qu'elle est excessivement intelligente et je pense qu'elle va faire une carrière très très longue. Je suis ravi qu'elle soit là. Pour le coup, Camille Diao, elle travaillait un peu à 28 minutes avant et je suis très très heureux qu'elle ait fait le choix de venir chez nous.
Vous nous avez dit que vous avez changé l'invité pour ce soir. C'est Karine Thuil qui sera ce soir.
Karine Thuil qui a écrit Les choses humaines il y a un an, qui pour le coup résonne fortement avec l'actualité puisque c'était une question de viol ou en tout cas d'agression sexuelle au sein d'une même famille recomposée. Donc ça résonne beaucoup avec l'actualité.
Et qui sera l'invité jeudi ?
Plantu, qui arrête sa carrière au Monde dans un mois et qui du coup viendra aussi nous parler liberté d'expression puisqu'il y a eu l'affaire Gors
évidemment
au Monde il y a quelques jours.
Le dessinateur qui a démissionné et vous serez toujours dans ses politiques. Hein.
Toujours dans ses politiques ce dimanche voilà. À 18h35 avec Daniel Cohen pour ceux qui l'aiment.
Longue vie à ce soir, même pour ceux qui l'aiment pas, il sera là quand même. Longue vie à ce soir, nouvelle
Merci
émission
beaucoup.
De débat, c'est du lundi au jeudi donc ce soir à 22h30 et puis ses politiques chaque dimanche 18h30 sur France 5 Culture Média. Continue évidemment après le rappel des titres, on va recevoir Eva Roch, Bertrand Chameroy. Eva Roch va parler de sexualité et Bertrand Chameroy peut-être un peu parce qu'il a regardé Les Princes de l'Amour. Notre invité, c'est le co-créateur d'Alex Hugo, la série de la 2, c'est Nico Takian. Il sort un nouveau polar après son best-seller. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs ? Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Roch.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.